Page à page, l'émission du livre, proposée et présentée par Claire Ambille.
Adiciat, c'est bienvenue dans votre émission Page à Page, où nous nous retrouvons comme chaque jeudi de 9h30 à 10h sur les ondes de Radio Occitanie. Alors aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir Eva Cristina Mincenti. Bonjour.
Bonjour.
Qui va venir nous présenter donc son premier roman. Hein, c'est un premier roman. C'est toujours agréable de recevoir les personnes voilà, pour leur premier bébé, entre guillemets.
Mais c'est agréable d'être reçu.
Ah ben non, c'est parfait. Donc, Les Inattendus, c'est le titre et c'est édité chez Stock.
Ouais.
Voilà. Donc, on en parlera dans quelques instants et puis on parlera de vous aussi, Eva Cristina. Dans l'immédiat, comme à l'accoutumée, quelques petites infos. J'en ai très peu, j'en ai que trois parce que bon, j'ai envie de profiter de mon invité. Alors, pour vous signaler que demain soir, vendredi 14 mars à 20h30, aura lieu une performance poétique par Jean-Luc Haribaud pour son dernier recueil de poèmes qui s'appelle Prophétie. Je l'avais d'ailleurs reçu l'année dernière pour ce recueil. Alors, c'est une mise en scène faite par Marie Diliès, suivie d'une projection de vidéo expérimentale et d'une présentation complète des ouvrages publiés par les éditions N&B. Bien sûr, Jean-Luc Haribaud étant aussi le responsable des éditions N&B. Et puis, donc, bien sûr, il y aura du vin de Corbière et des babioles pour les bouches affamées pour demain soir. Alors, ça se passe où, je vais vous le dire. Ça se passe au cinéma L'Innoventura à Saint-Géniès-Bellevue. Ce n'est pas très loin de Toulouse. Donc, si vous avez envie de passer une bonne soirée qui allie poèmes, projections et puis découverte des éditions N&B et puis de boire un petit peu de vin en mangeant des bonnes choses, eh bien, n'hésitez pas à y aller. Je vous donne le téléphone pour réserver. C'est le 08 75 81 24 63. Donc n'hésitez pas demain soir à aller faire un tour du côté de Saint-Géniès-Bellevue. Ensuite, demain soir également, donc c'est pas au même endroit, donc à moins d'avoir le don d'ubiquité, ça va être difficile d'être aux deux endroits à la fois, il faudra choisir. Donc vendredi 14 mars également, à 20h45 cette fois-ci, c'est au théâtre de Lourdissoir à Lavelanet, ce n'est pas loin non plus de Toulouse. C'est une lecture-spectacle du roman de Frédéric Martin, qui s'appelle « Femmes vacantes », puisqu'on l'avait reçu, je l'avais reçu au mois de novembre pour ce roman. Et donc, dans le cadre donc du 10e printemps des poètes, alors ce sera suivi d'un échange avec l'auteur. Donc n'hésitez pas à aller voir Frédéric Martin et puis donc cette lecture spectacle de son roman « Femmes vacantes ». Et puis la dernière petite info, donc dimanche 16 mars, eh bien nous aurons le plaisir de retrouver à la cave Poésie Gilbert Baquet, qui était mon invité la semaine dernière pour son recueil de poèmes Fin provisoire. Donc vous retrouverez Gilbert en compagnie d'autres poètes comme Serge Peille ou Philippe Berthaud à la cave Poésie, donc le soir du dimanche 16 mars. Donc pareil, n'hésitez pas à y aller si vous avez envie de vous laisser bercer un peu par de la poésie, c'est toujours bien agréable. Ça donne du baume au cœur et ça met du soleil dans la vie. Avec le temps qu'il fait, ce n'est pas du luxe.
Page à page, Claire Ambille.
Pou, pou, pitou. Alors, je me tourne vers mon invité maintenant donc pour parler un petit peu de Eva Cristina, que j'ai rencontrée au salon de Montgiscard le 20 janvier dernier, hein, c'est ça ?
Oui, c'est ça.
Voilà, on s'est rencontrés à ce salon et donc vous proposiez votre premier roman, Les Inattendus, édité chez Stock.
Absolument.
Et donc, nous voici donc à Page à Page. Alors, vous êtes née dans une famille d'artistes, Eva ?
D'artistes peintres.
D'artistes peintres, ouais. Voilà, professionnels.
Mon père comme ma mère.
Ouais, voilà, ouais. Donc avec un papa hongrois.
Oui.
Qui est arrivé en France en 56. Voilà. Et puis une maman d'origine norvégienne.
Oui, qui est née en France, mais avec une mère norvégienne, et puis qui a vécu en Scandinavie son enfance.
D'accord, donc ça fait une diversité culturelle et d'origine qui est assez...
C'est un joli feu d'artifice.
Et également une diversité artistique, puisque votre papa, justement, donc, qui est artiste peintre, bien sûr, mais il a aussi publié 3 recueils de poèmes en France il y a quelques années.
Dans les années 70, il a publié 3 recueils de poèmes. Il a même reçu le prix du syndicat des journalistes et écrivains.
Ah oui.
Donc c'est pas rien.
Ah oui, tout à fait.
Et Jean-Luc Haribaud, dont vous parliez tout à l'heure, aux éditions NEB, va publier bientôt.
Oui. Voilà. Dans l'année.
Dans l'année, voilà.
Voilà, en 2008. Son quatrième recueil.
Son quatrième recueil, voilà.
Donc ça sera une production de NEB et
exactement.
De Toulouse,
oui.
Donc de notre région. Ça sera peut-être l'occasion de venir le présenter si votre papa...
Je pense que ça lui fera très plaisir.
Plaisir partagé.
D'accord.
Ça sera alors, c'est un message à lui transmettre.
Je lui transmettrai.
Et donc, sinon, vous êtes, Eva, vous êtes plasticienne, donc vous travaillez la photographie et l'encre de Chine. Donc, plasticienne, ça consiste...
C'est un terme générique qui explique qu'en fait, on a pour métier les arts plastiques.
Donc, d'accord. Donc, vous avez fait des études plutôt artistiques, donc
Moi, j'ai fait des études de musique.
De musique, oui, parce que vous êtes musicienne aussi,
mais
on va
après,
y dire. C'est vrai que vous êtes musicienne également.
Comme je suis dans une famille d'artistes, on m'a mis très tôt les pinceaux dans les mains et disons que mes parents étaient mes professeurs. Hein. Vraiment, je suis un pur produit familial.
Et donc vous faites de la photo également.
Ouais, ça c'est arrivé par hasard. C'est vraiment la passion de la photo qui m'a donné envie d'en faire. Voilà, mais c'est voilà, ça c'est un petit truc.
Et l'encre de Chine, donc vous faites beaucoup de dessins
Oui, c'est vraiment...
Vous dessinez.
Voilà, je dessine.
Et vous êtes donc, comme vous le disiez, musicienne. Vous avez fait du chant lyrique à Toulouse et à Londres pendant une dizaine d'années.
J'ai fait de la musique pendant 10 ans. J'ai étudié 2 ans le chant à Toulouse et 2 ans le chant à Londres.
Voilà, donc là aussi...
Se rejoint, hein, vous savez, la littérature, la peinture, la musique, c'est le même fond. Après, c'est comme...
C'est l'art.
Oui.
C'est de l'art.
Après, c'est juste des idiomes différents, mais c'est le même fond.
Et donc, qu'est-ce que je voulais dire vous avez pensé... Voilà, comme vous avez fait 10 ans de musique, vous avez vraiment pensé que ça allait être votre profession.
Enfin, oui.
Vous allez en faire votre métier. Puis finalement...
Et finalement, non. Parce que, moi, je faisais du chant lyrique. Donc, le chant lyrique, voilà, on est là, quoi.
C'est particulier. Oui,
c'est particulier. C'est très, on n'a pas, sauf peut-être quand on joue dans un opéra où là, on a la distanciation du rôle. Mais sinon, quand on doit faire des récitals et des choses comme ça, on est là, quoi. Et moi, il me manquait une distance. J'avais besoin d'avoir une distance entre ce que je fais et un public. Un médium. Il me manquait un médium, voilà.
Et donc, vous l'avez trouvé par l'écriture.
L'écriture et la peinture, oui.
Et la peinture. Et donc vous préférez écrire. Et vous dites que la musique a une place importante dans l'écriture. Et même dans vos dessins, au niveau pictural
et au niveau
de l'écriture.
Oui.
Et dans la vie tout court.
Oui, dans la vie tout court.
Oui, vous dites d'ailleurs, dans nos vies, tout est musique.
Ouais,
c'est joli, je trouve.
C'est un peu le sentiment que j'ai. C'est qu'en fait, quelque part, tout est musique.
Et donc, vous avez davantage l'impression, justement, d'écrire des partitions pour voix parlée plutôt que d'écrire au sens littéral du terme.
D'ailleurs, quand j'écris, j'ai un vieux magnétophone chez moi. Et ce que je fais souvent, c'est que je lis des passages tout fort et je m'enregistre pour entendre. Et en fait, il faut que ça sonne bien.
Et après, comme ça, vous mettez sur le papier ce qui sonne bien.
Quand ça sonne bien, je me dis, c'est bien, c'est ça.
Bien,
mais il faut que ça sonne. C'est juste.
D'accord. D'ailleurs, on va en parler tout à l'heure, mais dans votre livre, ça se retrouve. Parce qu'il y a des phrases très courtes, il y a des répétitions des fois, il y a des mots tout seul des fois. Et puis, des phrases plus longues également.
Ouais.
Enfin, je veux dire, c'est vrai que ça fait un peu comme une musique,
Avec
un rythme. Ça se retrouve. Enfin, moi, j'ai beaucoup aimé, évidemment. Je ne l'ai pas encore dit aux auditeurs, mais j'ai adoré votre livre.
Merci.
Donc ça s'y retrouve, effectivement, la musique. Et donc, pour vous, écrire, c'est une expérience humaine qui vous permet donc de partager des émotions que vous n'aurez peut-être pas pu exprimer d'une autre manière.
Par timidité, par incapacité, parce que ça demande beaucoup de temps. Enfin, on ne peut pas exiger, on ne peut pas dire à quelqu'un, assieds-toi là, ça va me prendre 2 heures, mais je vais t'expliquer quelque chose qui me semble important. C'est pas possible. Donc, par l'écriture, ça permet de créer des liens.
Oui, et puis bon, c'est peut-être plus facile, voilà, à exprimer ce qu'on a au fond de soi aussi.
Et puis, comme il y a une distanciation, on ose peut-être dire des choses qu'on n'oserait pas dire en, comme ça, de face à face.
Ouais, tout à fait. Donc, en fait, voilà, vous exprimez vos émotions par par l'écriture.
J'essaie de trouver des liens humains, ouais.
Et donc justement, ce livre Les Inattendus, c'est donc votre premier roman, mais vous avez fait deux albums jeunesse, d'ailleurs, où j'ai mis les titres, vous allez me les dire.
Alors le premier s'appelait Phénoménal Coutiou, et le deuxième se nomme L'Aventure Coutiou, l'Aventure. Donc c'est deux albums qui marchent en binôme.
Dont vous avez écrit les textes et vous avez illustré également.
Oui. Voilà.
Là, donc, j'ai fait les deux. Là, j'ai fait les deux. Écriture et dessin.
Ouais.
Et donc, ils sont édités en 2005, le premier, le second en 2006.
Ouais, chez Arfil Volis.
D'accord, maison d'édition. Donc, ils sont encore disponibles. Pour ceux qui nous écoutent et qui ont des petits, s'ils veulent se les procurer, c'est toujours possible. Oui. Voilà, ils sont certainement également dans les bibliothèques.
Oui, aussi.
Dans la médiathèque de Toulouse et dans les bibliothèques. Donc, vous avez commencé par ça, on va dire, par jeunesse, par deux albums jeunesse.
Oui.
Voilà. Oui. Et puis, cette année-là, enfin en 2007, c'est Les Inattendus.
C'est inattendu, oui.
C'est... Non, j'ai pas dit ça, mais c'est Les Inattendus, voilà, c'est votre premier roman.
Oui, absolument.
Donc, bon, voilà, pour qu'il s'adresse à des adultes, quoi.
Ouais.
Donc, le changement entre les deux, c'est...
En fait...
L'envie de...
Quand j'ai commencé, ça fait longtemps que j'écris dans ma chambre.
Vous
comme,
avez toujours
voilà,
écrit,
j'ai toujours voilà, écrit, voilà.
Et dans les tiroirs,
exactement.
Les cahiers, les poèmes, les choses comme ça.
C'est
tout ça.
Exactement ça. Et moi, j'ai commencé par écrire des choses que je destinais aux adultes, des nouvelles, des choses comme ça. Et puis, en fait, l'épisode littérature jeunesse est arrivé finalement assez tard. J'ai commencé assez tard à écrire pour
les enfants.
Et Les Inattendus, c'est comme un retour, finalement,
à vos premières
amours. Exactement. Donc, c'est comme un cycle, un peu.
Mais la vie est un cycle.
Oui, c'est vrai.
Également. Mais alors, donc, Les Inattendus, moi, donc, comme je le disais, j'ai beaucoup aimé. Alors, Les Inattendus, on en parlait tout à l'heure. Donc, le titre, c'est vrai, peut paraître inattendu.
Ouais.
Mais un peu, le livre l'est aussi. Donc, ça s'apparente un peu au contenu du livre, ce titre, Les Inattendus.
Complètement.
Les personnages
sont inattendus.
Voilà.
Et ce qui se passe entre les personnages est inattendu pour eux.
Oui, également. Voilà. Donc, le titre colle bien au livre. Au livre, voilà. Oui, voilà, je les ai retrouvés, les albums jeunesse. Mais bon, voilà, on en a parlé.
Ça y est.
Donc, c'est un peu tard. Voilà. Et donc, c'est un premier roman, donc assez court, hein, puisqu'il fait 91 pages. Hein, donc, c'est pas un.
C'est du concentré.
C'est exactement.
Voilà.
C'est du concentré, parce qu'il est court, mais très, très intense. Hein, je veux dire, c'est très beau. Enfin, j'ai bien aimé. C'est très poignant, mais c'est sans pathos. Enfin, genre, c'est pas. Il y a de l'émotion, il y a des passages qui sont difficiles, hein, qui sont durs, mais il n'y a pas de misérabilisme ou de pathos excessif.
Il ne faut pas tomber dans l'obscène.
Non,
quoi.
Voilà,
c'est ça.
Ouais. Et moi, je trouve que justement, c'est bien fait parce que, bon, voilà, il y a comme
on dit,
du concentré et on ne tombe pas dans le côté un peu négatif des choses émotionnelles.
Ouais.
Donc, c'est un livre qui est très marquant parce que je pense que quand on le. Voilà, moi, je l'ai lu d'une traite. Hein, j'ai commencé et je l'ai pas lâché. Et je pense que c'est un livre qui ne laisse pas indifférent. Déjà, on le lit d'une traite. Et puis, bon, quand on le referme, on y pense encore après. À la limite, on en parle à des personnes en disant, tiens, j'ai lu un livre. Voilà, ça m'a fait ci, ça m'a fait ça, ça m'a marqué. C'est pas un livre qui laisse indifférent.
Bah, tant mieux, c'est que le lien fonctionne alors.
Et donc ça, on va dire un petit peu l'histoire. Enfin, en gros, ça se passe en Hongrie, donc le pays de votre papa, où vous avez été deux fois en Hongrie. Hein, vous avez encore un peu de famille, des tantes.
Mes tantes, mes cousins.
Voilà. Ouais. Donc vous avez donc ça se passe en Hongrie. Alors moi, ce que j'aime bien, c'est le fleuve. Enfin, le fleuve, c'est pas vraiment un fleuve, c'est
un petit cours d'eau,
l'Ipoly. Je ne connaissais pas. Bon. Et ça m'a bien plu parce que bon, on apprend plein de choses en plus. Mm-hmm. C'est ça, c'est qu'on découvre plein de choses. Et donc, c'est l'histoire de Clara.
Oui.
Qui, donc Clara, c'est, comme vous me disiez au début, bon, c'est un roman, donc bon, il y a de l'imaginaire, hein, bien sûr, c'est romancé, ouais. Mais ça s'appuie quand même sur des faits réels, hein, puisque vous-même, vous avez été en Hongrie pour travailler, enfin pour faire,
pour faire du bénévolat
dans un hôpital. Comme celui-ci. Et donc Clara travaille justement dans cet hôpital. Donc l'hôpital existe. Clara, c'est un peu vous à une période de votre vie, on va dire.
C'est plutôt des gens que j'ai vus. Puisque moi, je suis venue en tant qu'occidentale pendant des vacances.
Et des gens qui travaillaient, justement, des femmes qui travaillaient dans cet hôpital.
Des femmes qui travaillaient dans cet hôpital. Et c'est vraiment comme ça que je les ai ressenties. Voilà, les sentiments que je décris. Alors, il y a aussi des sentiments que j'ai ressentis, hein, forcément, obligé. Mais j'ai vraiment essayé de me mettre dans la tête de ces femmes dont c'était vraiment le moyen de subsistance. Parce que c'est facile de prendre 2 mois de sa vie pour aller faire du bénévolat. Après, on revient à la vie, à la vie confortable. Alors qu'il y a des gens dont c'est vraiment la profession et c'est leur seul horizon, quoi. Disant que ça. Et j'ai vraiment essayé de rentrer un petit peu dans la vie de ces soignantes-là qui peuvent, qui n'ont que ça, en fait. Comme horizon.
Et donc cet hôpital est un peu particulier parce que donc Clara travaille dans un hôpital, l'hôpital des enfants cassés.
Oui.
Alors ça, bon, c'est pareil, c'est un terme, c'est très simple comme terme, mais bon, ça englobe, c'est tous les enfants un peu qui sont nés avec des malformations congénitales,
handicapés.
Et dont les parents ne peuvent pas ou ne veulent pas s'occuper et donc les mettre dans cet hôpital.
Voilà.
Et donc, il y a, comme vous dites, des personnes dont leur vie se passe à s'occuper de ces enfants-là, avec des fois aussi des décès, parce que ces enfants-là ne vivent pas toujours très longtemps.
Bien sûr.
Donc, avec toute cette... Enfin, c'est dur, hein, des fois.
Oui, c'est dur.
Le livre a des passages un peu difficiles. Hein, et on parle aussi, vous y parlez aussi de Tchernobyl.
Je fais allusion à Tchernobyl, puisque le livre, l'action se passe en 94.
Voilà,
donc c'est 8 ans après Tchernobyl. Et c'est un hôpital qui accueille des enfants donc mal formés, donc il y a des malformations congénitales, et puis il y a aussi des enfants qui sont nés quelques mois après Tchernobyl et qui ont des malformations inexplicables. Donc voilà, pour les gens, sachant que quand même Tchernobyl n'était pas si loin que ça de la Hongrie.
Oui, puis que ça s'est pas arrêté pile à la frontière.
Exactement.
Que ça soit la frontière hongroise comme on nous l'a dit à l'époque.
Exactement, c'était un drame vraiment européen, Tchernobyl.
Tout à fait. Donc ça, voilà, ces enfants-là sont à la fois mal formés de façon congénitale, mais aussi on peut
par
le drame de Tchernobyl. Ouais. Et donc, je vais lire la quatrième de couverture déjà pour donner un petit peu le ton du livre avant de passer donc à la lecture du premier chapitre. Alors, la quatrième de couverture, j'erre longtemps dans les couloirs. Le sommeil s'est toujours dérobé sous moi. Je ne m'éteins que 3 ou 4 heures par nuit. Maman a toujours dit que j'étais une enfant difficile. Je ne lui laissais pas de répit. Je veille. Ma sœur est partie. Il n'y a plus grand monde chez moi. Je pense que je ne manque à personne. Bien sûr, maman voudrait que je vienne la voir plus souvent. Elle ne comprend pas que vivant à quelques mètres d'elle, je ne la visite pas. Mais je sais aussi que c'est un soulagement. Avoir des enfants coûte de l'argent. Ma famille n'est pas fortunée. À la maison, je n'ai jamais servi à rien. Je pleurais. J'avais faim. Jamais sommeil. J'ai grandi, appris, quitté l'école. Mais je n'ai jamais été indispensable à mes parents. Sinon, ils viendraient me visiter. Ils ne me laisseraient pas ici au pavillon des enfants cassés. Je ne vivrais pas à l'hôpital. Je ne sais pas qui abandonne qui. J'hésite. Alors ça, c'est la quatrième de couverture, donc ça donne un peu le ton déjà.
Ouais.
Et puis voilà, donc c'est Clara qui parle.
Oui. Ouais,
la soignante. Et voilà, donc en fait, oui, c'est vrai que l'hôpital des enfants cassés se situe juste à côté de là où elle habite avec ses parents. Mais elle décide de vivre dans
l'hôpital.
Dans l'hôpital.
Ouais.
Et puis elle a une sœur aussi qui, elle, est partie à Budapest.
Pour essayer de sortir un petit peu.
Et puis, donc, on ne va pas raconter toute l'histoire parce qu'il faut vraiment lire ce livre. Et on peut peut-être lire le premier chapitre.
D'accord. Tu y vas ?
Oui.
D'accord.
On entend la petite musique.
À Hongrie, à Hongrie, vous vivrez toujours auprès d'une frontière. Le pays le veut ainsi. Il y a la frontière, puis un fleuve, une grande plaine et l'autre frontière. Nous n'avons pas choisi. En 1919, les trois quarts de notre territoire furent confisqués. Depuis, nous sommes tous frontaliers. Derrière ma fenêtre, la Slovaquie s'étire. L'Ipoy s'écoule, mince. Sa vase est profonde. Ses berges sont brûlées. L'Ipoy est la frontière, large d'un homme allongé. À sa gauche, à sa droite, deux églises, en tout point identiques. Nos sermons sont en hongrois, les leurs en langue slave. Nous sommes heureux ici. Notre communauté minuscule ne connaît ni cohue, ni progrès, ni l'avidité. Le futur se noie dans l'Ipoy. Nous vivons heureux ici. Nos maisons peintes cachent des cours arborées. Nous n'aimons pas montrer nos richesses. Les nôtres sont végétales. Dans l'unique rue du village, des pruniers rythment nos pas. Nous avons une poste. Nous avons une épicerie. Nous avons un bus. Le bus mène à une gare où patientent des trains pour Budapest. À Budapest, patientent des trains pour n'importe où dans le monde. De ce fait, nous ne sommes pas si isolés que cela. Ce n'est qu'un sentiment, exalté peut-être, par la succession des champs de blé jusqu'à vision morte. Un hôpital ferme notre village. Ses patients sont des enfants, menés par les ambulances, à peine issus de l'utérus maternel. Lukács est garçon de salle. C'est ainsi que j'ai appris comment certains parents jettent leurs enfants, ici, à l'extrême point de notre pays, à peine leur premier cri poussé. Des parents terrifiés, vaincus, un formulaire, une signature. Et les ambulances de la grande ville les conduisent ici, continuer au finir leur brève, brève vie. Ces enfants sont ce que j'ai entreaperçu de plus étrange. Je ne sais pas. Peut-être que dans notre capitale, celle qui enjambe un fleuve, notre fierté, avec ses bains turcs, ses immeubles art nouveau, peut-être que dans cette ville vivent des choses plus insolites encore. Peut-être ont-ils trop de choses insolites pour nous les envoyer. Au Feher, 200 habitants, une rue unique, dernière extrémité nord de la Hongrie.
Merci Eva pour ce premier chapitre qui donne vraiment le ton de ce livre, de ce beau livre, de ce beau roman. Et donc au Feher, oui, c'est la ville où se situe l'hôpital donc des enfants
ouais,
cassés.
Hein. Petit village,
oui. Et oui, apparemment, oui, ça a l'air
tout petit.
Très petit.
Tout petit.
Et donc ce roman, vous l'avez dédié à Mikhaïl et Sandor,
ouais.
Qui n'eurent pas le temps.
Qui n'eurent pas le temps.
Donc,
qui sont Mihai et Sandor, c'est
voilà.
Ça. Alors en fait, c'est Sandor, c'était mon oncle que je n'ai pas connu. Il est mort à 18 ans dans un bombardement.
Donc votre oncle paternel.
Oui, paternel. C'était le frère aîné de mon père. Mm-hmm. Et en fait, il a commencé à publier à 16 ans.
Donc,
En Hongrie. Oui, oui, en Hongrie. Mm-hmm. Donc bon, voilà, sa vie et sa carrière et voilà, s'est arrêtée à 18 ans dans ce bombardement. Et
mon grand. Ça fait jeune, effectivement.
Ça fait très jeune.
Oui.
Et Mihai, c'était mon grand-père, qui est mort jeune aussi, il est mort une cinquantaine d'années, qui était militaire, qui avait eu 5 enfants et qui disait toujours « Quand je serai à la retraite, j'écrirai le livre que j'ai dans le cœur. Je dois écrire un livre et quand je serai à la retraite, que tous mes enfants en seront élevés, j'écrirai mon livre. » Et malheureusement, il n'a pas eu le temps.
Il n'a pas eu le temps. Ben voilà. Oui, mais enfin, voilà, sa petite fille Eva Christina
voilà,
est là pour justement, voilà, quelque part...
Rendre un petit peu justice.
Oui, vous rendez hommage à la Hongrie et puis aux gens de votre famille. Je trouve que c'est bien. Vous parlez le hongrois, Eva ?
Je parle quelques mots de hongrois.
Ah oui ?
Oui, quelques mots seulement.
Vous n'avez pas eu envie de... Oui, j'ai touché mon micro, ça fait beaucoup de bruit, j'imagine. Excusez-moi les auditeurs, mais... Non, vous n'avez pas eu envie d'apprendre la langue
En fait, c'est une
situation... paternelle ?
C'est une situation particulière, puisque mon père est hongrois, ma mère est d'origine norvégienne, moi je suis née en France. Donc, plus qu'une famille hongroise, on est une famille européenne.
Oui,
voilà.
Oui.
Donc, apprendre le hongrois, ça aurait été... Mon père ne parle pas hongrois du tout à la maison. Hein. Donc, ça aurait été une démarche particulière.
Oui. Dans vos études, vous avez appris des langues vivantes, j'imagine.
Oui, l'anglais, l'espagnol, comme tout petit français.
Et donc, vous n'avez pas fait, vous n'avez pas eu envie de faire la démarche personnelle, enfin entre guillemets, quoi, d'apprendre la langue.
En même temps, si j'avais appris le hongrois, il aurait
que j'apprenne le norvégien. Oui, pour pas faire de jaloux.
Parce que sinon, ça aurait été un choix difficile.
J'imagine. oui. Donc, ça faisait effectivement beaucoup de choses à apprendre. Mais bon, c'est bien que vous avez rendu hommage avec ce premier roman à la Hongrie.
Oui.
et le suivant, ça sera pour la Norvège, les pays scandinaves.
Ce sera pour la France.
Pour la France.
Ouais, ce sera pour la France.
Pour la France. Donc vous avez comme projet donc un autre roman.
Un second roman. Voilà,
un second roman, donc pour adultes, donc pas pour pas de l'album jeunesse, voilà, pour adultes.
Donc je suis en train, je suis dessus.
Voilà, vous êtes dessus. Donc vous reviendrez nous en parler quand.
Ah, ce sera avec grand plaisir.
Voilà. Ah oui, ben pour moi aussi. Donc j'imagine que ça sera aussi musical que celui-ci.
Je le souhaite.
Voilà, vous avez un style de toute façon qui correspond à voilà avec la musique. Ouais. Voilà, donc je pense qu'on change pas de style comme ça d'un livre à l'autre.
Je pense pas non plus.
Bon, après le sujet, voilà, sera peut-être voilà sera certainement différent. Mais bon, je pense que ça sera aussi un livre poignant aussi. Enfin, je veux dire quelque chose de.
Bah, disons que moi, je travaille sur les sentiments en fait.
Oui. C'est donc ça. Tout ce qui est émotion, sentiment, voilà. Donc forcément, c'est pas forcément les petits oiseaux, le soleil,
exactement.
Tout va bien. Donc
voilà
ça, il faut le dire. Donc bon, bah, moi, ça sera avec plaisir que je vous recevrai de nouveau. Donc pour ce second roman, enfin le premier était vraiment, enfin est vraiment très réussi. Donc je vous invite vraiment à lire ce livre qui s'appelle Les Inattendus, édité donc chez Stock et d'Eva Christina Mizenti.
Oui.
Voilà, oui, le nom, c'est pas facile.
Ouais. C'est une aventure.
C'est une aventure. Le nom
est une aventure.
Alors, nous, on se retrouve la semaine prochaine. Alors, ça serait un invité, bien sûr, absent, parce que quand je vais vous dire qui je recevrai, vous allez comprendre. C'est Boris Vian. Donc, l'invité absent, voilà. Donc, une émission sur Boris Vian avec, on écoutera quelques-unes de ses chansons, parce que Boris Vian n'était pas seulement écrivain, il était chansonnier, il était même musicien de jazz. Hein,
ouais.
Voilà. C'était un grand monsieur qui est mort lui aussi très jeune, parce qu'il est mort à 39 ans. Donc, lui aussi, il n'a pas
jeune.
Trop eu le temps de faire tout ce qu'il voulait, mais enfin, il a vécu très intensément, c'est déjà ça. Donc voilà, on retrouvera donc Boris Vian la semaine prochaine. Et puis là, je vous laisse donc en compagnie, après le flash culturel, en compagnie de Maëlle pour son émission Libresse d'Occitanie. Je vous dis au revoir et à la semaine prochaine. Merci Eva.
Merci à vous, Claire.
Et puis, adiciat.